Bonjour à tous. Cette semaine sur Grenouille, les livres ont la parole, si je puis dire. Des livres, des lecteurs, des éditeurs, des libraires, comment vivent ceux qui font ce bon vieux monde du papier et de l'écrit. Suite à quelques inquiétudes connues de certains libraires du centre-ville de Marseille, nous avons voulu faire un point, sorte d'état des lieux de la situation de ces commerces, entre guillemets, dans la ville. Les gens lisent-ils ? Il semblerait que oui, et même de plus en plus, d'après certaines statistiques. On compte aujourd'hui 2 rentrées littéraires. Tout le monde n'est donc pas assis uniquement devant sa télé ou son ordinateur. C'est plutôt rassurant. 2 rentrées littéraires, ouverture de librairies en zone commerciale, fête du livre en tout genre, rencontres avec des auteurs à la télé et dans les centres commerciaux, commandes d'éditeurs directement à l'auteur avec la série télé qui suit en bonus. Pourquoi pas, mais cette démocratisation du livre ne répond-elle pas tout simplement à une logique de marché ? Et la passion dans tout ça ? Un libraire peut-il vivre de la vente de livres qu'il aime à défendre ? Entre business et soucis de littérature, la vie du libraire n'est donc pas forcément simple. Voilà donc le propos de cette émission en compagnie de quelques libraires qui composent le paysage littéraire de la ville. Avec nous, Molly Fournel, librairie Regard, qui se trouve à la Vieille Charité, une librairie qui propose un catalogue tourné vers les arts et les sciences humaines et qui se construit beaucoup en lien avec la programmation des musées de Marseille, mais aussi du CIPM, du cinéma Le Miroir, bref, des structures culturelles qui se trouvent aussi dans ce même site de la Vieille Charité. Laurent Baudry, qui il y a 10 ans a ouvert la librairie Païdos, une librairie tournée vers les sciences de l'éducation et qui se positionne très clairement comme un lieu de résistance, un espace qui favorise l'esprit critique et la contestation. Donc je pense que vous en aurez un aperçu pendant cette émission. Jean-Paul Latty, vendeur libraire à Cultura, la Valentine, un des 35 magasins qui se trouvent dans toutes les zones commerciales, tous dans les zones commerciales en France. À Cultura, on y trouve de tout, du livre au disque, au multimédia, aux loisirs créatifs, à la papeterie, aux jeux, aux jouets. On y trouve aussi un espace de restauration et de rencontres. Cultura serait, pour ma part, hein, c'est très personnel, une sorte de mix entre Graphigro et la FNAC. La FNAC qui aurait dû être autour de cette table, mais qui malheureusement, pour des raisons de problèmes de communication, finalement, n'est pas là. Mais quand même, on peut citer que la FNAC va ouvrir très prochainement, la semaine prochaine, à la Valentine également, juste à côté de Cultura. Et puis aussi prochainement, il y aura un magasin FNAC à Aix-en-Provence. Donc on pourrait se dire que l'espace de vente des livres concernant Marseille se déplace du centre-ville en périphérie. Encore que, puisque des petites, entre guillemets, librairies ouvrent aussi leurs portes en centre-ville, preuve en est, notre dernière invitée, toute fraîchement installée à Marseille, sans peur ni reproche, la librairie Histoire de l'œil, tournée vers la littérature contemporaine et ouverte aussi aux propositions artistiques. Alors peut-être pour commencer, Nadia, avec l'histoire de l'œil, qu'est-ce qui vous a donné envie donc, d'ouvrir cet espace ? Est-ce que c'est l'envie de répondre à un manque, l'envie de répondre plutôt à une passion, à votre propre passion du livre, ou tout simplement vous disant que libraire, c'est peut-être un métier d'avenir ?
Un métier d'avenir, je sais pas, j'espère. Je pense que c'est un petit peu tout ça. L'idée d'ouvrir une librairie, c'est avant tout, de toute façon, une passion, parce que je pense que si on n'est pas passionné, c'est pas possible. C'est trop de contraintes, c'est trop difficile. Enfin, justement, on connaît les problèmes de la librairie indépendante aujourd'hui. Pour se lancer dans l'aventure, en toute connaissance de cause, en étant forcément passionné. Voilà, ça c'est la première chose, à mon avis. En ce qui me concerne, c'est plutôt la littérature. C'est aussi l'art contemporain. Donc, l'idée était, pour l'histoire de l'œil, de créer un lieu qui soit à la fois un lieu d'exposition et une librairie. Voilà.
Le fait de lier les deux, on en reparlera un petit peu plus tard, mais ça peut aussi ouvrir des portes à la littérature, à des gens qui seraient pas forcément axés sur le livre dans leur vie quotidienne, ou c'est au contraire un tout ?
C'est un tout, c'est aussi ouvrir à une population différente, à un public différent, en sachant que l'art contemporain est quand même une chose très ciblée, très particulière. Mais l'idée, c'était d'amener justement un public d'art contemporain, des gens qui viennent voir les expositions, qui viennent au vernissage, dans un lieu où ils vont, enfin, qui ne fréquentent pas forcément une librairie, ou les amener en tout cas à être confrontés à des livres auxquels ils ne seraient pas forcément confrontés, et inversement, évidemment. C'est-à-dire que le lecteur qui vient acheter un poche d'un auteur qu'il aime ou qui vient pour se faire conseiller se retrouve confronté à l'œuvre d'art, chose à laquelle il ne s'attendait pas forcément.
Alors pour continuer le tour de table et puis avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, à savoir comment une librairie vit aujourd'hui dans la ville, comment chacun d'entre vous, vous avez été amené à devenir libraire, donc comme Nadia, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier, Laurent peut-être, en ouvrant cette librairie spécialisée, très portée vers les sciences de l'éducation et assez contestataire.
Voilà, donc pas porté sur les sciences de l'éducation, hein, c'est une des spécialités, une des spécialisations de la librairie. Ce qui m'a amené, c'est que j'étais déjà libraire avant, mais je travaillais pour d'autres gens, et que j'avais envie d'avoir les coudées franches et de faire ce qui me plaisait, parce que je pense qu'être libraire aujourd'hui, c'est d'une part défendre des fonds d'ouvrages, et d'autre part de marquer de son empreinte personnelle ses fonds. C'est-à-dire la façon dont je définirais une librairie aujourd'hui, c'est de faire une offre à un public et que cette offre coïncide à ce public. Et cette offre doit être très marquée, je pense qu'en poésie, en art contemporain, comme le fait... notre jeune confrère qui vient d'ouvrir,
Nadia.
Le nom de la librairie.
Nadia,
l'histoire de l'œil. Elle marque de son empreinte profondément le four qu'elle propose aux librairies. C'est-à-dire, je ne crois pas, et c'est vrai que l'édition aujourd'hui nous pousse à avoir des offres qui sont un petit peu toutes semblables. Je crois qu'aujourd'hui, être libraire, c'est se démarquer de ces offres très, très semblables. Mmh. Et on peut trouver, il y a 700 000 livres disponibles, il y a plus de 10 000 éditeurs, on peut travailler avec des petits éditeurs, on peut travailler avec des ouvrages qui font partie de notre patrimoine, et c'est ça qui est intéressant.
Molly Fournel, la librairie Regard à Marseille, comment donc toi aussi tu es rentrée dans ce monde de la littérature et du livre? Est-ce que c'est sur les mêmes envies que Laurent Baudry, envie de défendre une certaine littérature, un certain fond?
Bien sûr, on rentre en librairie parce qu'on aime ça, et pas forcément parce qu'on aime le livre, mais parce qu'on a un rapport ouvert à la connaissance. Je crois qu'une librairie, comme à peu près toutes celles qui sont ici, ce sont des librairies qui témoignent d'une richesse d'imaginaire, d'une pluralité de sensibilité, d'une pluralité de savoir, dans les ouvrages de fond, témoigner de l'évolution du savoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un auteur, que ce soit en sociologie, en anthropologie, ne sort pas de rien. Il sort d'un ensemble d'études qui l'ont précédé, disons, depuis la fin du XIXe siècle. Et ça, c'est très important, dans ce que disait Laurent par rapport aux ouvrages de fond, de témoigner de cette évolution du savoir. Je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut vendre que ce que l'on aime, mais ça veut dire qu'il faut privilégier absolument notre spécialité et pouvoir transmettre ses connaissances. Je crois que c'est quelque chose d'assez fondamental. Surtout pour des domaines comme l'histoire, comme l'anthropologie, comme la sociologie.
Il y a un besoin d'accompagnement.
Qui est un besoin d'accompagnement. En art contemporain, et je peux en parler parce que j'avais la librairie au MAC il y a fort longtemps, quand le MAC fonctionnait un tout petit peu, je trouve que moi, ce qui m'intéressait lorsque j'avais la librairie au MAC en art contemporain, c'est que là, on était sur de l'instable. Et c'était ça qui était intéressant. C'était que la charité, on était sur quelque chose, sur un savoir relativement stable, acquis, en quelque sorte, tandis que quand on était au MAC, avec l'art contemporain, on était sur quelque chose en train de se faire. Et on avait peut-être plus une prise de risque. Les deux parties, je dois avouer, m'intéressaient. Là, j'en ai un peu, mais c'est vrai que la librairie, on ne peut pas pousser les murs, donc elle est pleine. Voilà.
Jean-Paul Latty, Cultura, ça a ouvert il y a 2 ans, donc j'imagine que vous étiez libraire bien avant de rentrer dans ce magasin.
Oui, moi j'ai commencé à travailler sur la Canebière à l'époque où il y avait 4 très grandes librairies sur la Canebière, avant la première arrivée de la FNAC à Marseille, dans des conditions très différentes de celles d'aujourd'hui, puisqu'à l'époque il faisait moins 20% sur les livres, donc c'était vraiment une révolution qui n'aura pas lieu aujourd'hui. Et je crois que ça s'est ressenti dans les discours de mes confrères, c'est le mot passion qui ressort. Et avec les gens avec qui je travaille, partage cette passion et on vient à la librairie vraiment par passion. Ensuite, il est évident que chez nous, la librairie ne se conjugue pas tout à fait comme l'ont fait mes confrères. On a une vocation qui est différente, beaucoup plus généraliste, et on essaie de privilégier une offre maximale par rapport à la clientèle qui est la nôtre. Et c'est vrai qu'on peut peut-être, c'est subjectif, ça pourrait se discuter un peu plus tard dans l'émission, défendre ses coups de cœur, mais de manière certainement différente, parce qu'il est évident que le nombre de clients ne permet pas tout à fait la même chose. Voilà. Mais on essaie bien entendu de le faire au mieux.
Alors, vous avez donc travaillé dans des librairies dites classiques en centre-ville.
Voilà, tout à fait, indépendantes.
Et indépendantes. Et aujourd'hui, vous vous êtes donc orienté plus vers un type commercial. Enfin, je veux dire, oui, une librairie plus ouverte, plus commerciale.
Vous savez, je crois que nous faisons tous du commerce. Qu'on le veuille ou non, à un moment, si nous ne vendons pas de livres, nous avons tous un problème. Que nous l'abordions différemment, c'est une évidence, mais je viens de chez Soroms à Montpellier, qui est réputée pour être une des grandes librairies du pays, à fort juste titre, et qui l'est. Il n'y a pas de différence fondamentale entre la façon de travailler chez Soroms et la nôtre. Mm-hmm. Simplement, évidemment, le nombre de magasins fait que il y a quelquefois des achats qui sont plus centralisés, mais il n'y a pas de différence fondamentale.
Est-ce que pour être libraire, donc en plus de la passion, il faut avoir aussi des capacités de gestionnaire, être un peu... Faut-il faire des études de gestion plutôt que des études de littérature?
Ça peut aider, je pense.
Je pense que la librairie est un métier à deux faces. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le côté symbolique, qui est la valeur du livre, le poids symbolique du livre, et puis à côté, il y a le poids économique. Mmh. Et qu'en ce moment... On ne peut pas faire vivre une librairie si on ne met pas, peut-être à part égale, je ne peux pas vraiment le dire, mais si on ne tient pas compte de façon très 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 précise de ces deux aspects.
Laurent, est-ce que vous vous occupez aussi des comptes ?
Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Molly. C'est impossible aujourd'hui d'être libraire sans être gestionnaire. Et les conditions que nous impose la distribution aujourd'hui nous obligent à être de plus en plus gestionnaires. Maintenant, c'est un équilibre, comme tu le disais, à nous de choisir. Je crois que, en effet, il y a un équilibre, mais il y a aussi de savoir ce qui doit rester au poste de commande. Et ce qui doit rester au poste de commande, c'est pas toujours la gestion. Enfin, la gestion ne peut pas être devant l'activité de libraire. Ça me paraît fondamental. Mais il ne peut pas y avoir d'activité de libraire sans gestion. Ça, c'est complètement. C'est voué à l'échec. D'ailleurs, on voit beaucoup de jeunes librairies arriver et disparaître très rapidement parce que, justement, la gestion n'est pas prise en compte. On aime le livre, comme je vois dans d'autres professions. On aime les enfants, alors on va faire ça. Mais ce n'est pas suffisant d'aimer les enfants pour être enseignant ou pour être éducateur spécialisé, ou, etc. Donc, c'est un équilibre qu'on doit faire. Ce que je veux dire quand même aussi qui me paraît important, c'est que on a affaire à des grands groupes devant nous pour ça dépend de chacune de nos librairies, la part de ces grands groupes dans les fonds qu'on a. Moi, ça représente les 4-5 grands groupes qui sont présents sur le marché. Les deux principaux représentent autour de 50% de mon activité. C'est-à-dire que j'essaye que cette part soit de plus en plus faible. C'est pas évident, mais ces grands groupes nous obligent à une gestion qu'on ne voit dans aucune autre activité commerciale, et une gestion qui s'applique pas à eux-mêmes. Eux se permettent toutes les irrégularités.
Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que quand on n'est pas du milieu, on a du mal à voir votre lien, votre rapport avec ces groupes de distribution, comment se passe
Faut peut-être les nommer d'abord.
Peut-être, hein. Oui. Peut-être. Qui
Alors,
sont-ils?
Les nommer, moi je les nomme par le nom de leur président.
Oui, on peut.
Arnaud Lagardère, un marchand d'armes, d'automobiles, etc. Le baron Sellière, ancien président du MEDEF, pourfendeur des droits sociaux.
Et qui détient 60% d'Editis, enfin fonds d'investissement.
Oui, l'Interforum, enfin voilà.
Bon, oui, enfin, ça, bon, c'est des noms aussi pairs.
Voilà, mais... Avant, c'était M. Messier, qui était un grand gestionnaire, qui nous a donné des grandes leçons de gestion des entreprises. On a vu comment il a fini. Et puis d'autres groupes, comme le groupe Lamartinière, derrière lequel il y a des Chanel, des fonds de pension américains. C'est-à-dire que tous ces gens-là n'ont qu'un seul objectif. Ce dont Molly parlait tout à l'heure, c'est la rentabilité à deux chiffres. Leur actionnaire leur impose ça. Donc, C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus l'édition comme à l'époque de Gaston Gallimard. C'est-à-dire, on ne cherche pas quelques best-sellers pour financer des auteurs à découvrir, pour financer des livres qui n'ont des fois aucune rentabilité. Mais aujourd'hui, chaque livre doit avoir sa propre rentabilité.
L'un n'équilibre
pas
l'autre.
Il est évident que pour ces grands groupes, la librairie indépendante n'est pas leur priorité. Et que même la disparition, moi je vais plus loin, je pense que la disparition de la librairie indépendante, si elle n'est pas directement assumée au jour d'aujourd'hui, peut devenir une priorité de ces grands groupes. Alors, on leur coûte très cher. Oui. On leur coûte très cher. Alors que bon, les grandes surfaces ou les magasins multi, etc., en commandant moins de titres par de plus grosses quantités, leur économisent leur économisent énormément de.
Alors comment définir une librairie indépendante? La librairie indépendante, donc d'après ce que vous dites, Laurent, ça serait en opposition avec les librairies qui appartiennent à des groupes.
C'est plus compliqué pour définir la librairie indépendante. La librairie indépendante, moi je vois par exemple, je suis membre du conseil d'administration du syndicat de la librairie française, on le définissait au départ par la propriété hors chaîne. Mais par exemple, lorsque Bertelsmann a racheté les librairies privées, il y avait des librairies privées qui étaient membres du SLF et on ne les a pas, on les a gardées parce que individuellement, les patrons de librairies étaient restés et que on faisait un travail intéressant. On faisait un travail intéressant avec eux. Donc c'est un peu difficile. C'est vrai qu'à un moment donné, si pour les librairies privées, on met quelqu'un qui vient de chez Carrefour ou qui vient des Champagnes ou un truc comme ça à la tête de ces librairies avec comme objectif uniquement faire de la rentabilité et faire passer en second la qualité de la qualité du fonds, effectivement, on se reposera la question. Mais pour l'instant, par rapport à ces librairies, on n'a pas aperçu un changement notable dans la gestion de ces librairies. Et les patrons de librairies qui y étaient gardent toujours la même liberté, je dirais, de fonctionnement qu'auparavant. Donc, c'est un peu quelque chose de compliqué, mais en même temps, on suit ça de très près. C'est-à-dire que, par exemple, il y en a un à Strasbourg qui part à la retraite maintenant, et on va suivre de très près le remplacement pour voir qui va le remplacer et sur quels objectifs.
Disons que la question humaine est importante.
Bien sûr, parce que c'est une rencontre d'individus aussi, hein, la librairie. Quand on est au CA du SLF, on est 24, avec des gens comme Sevestre, Tourelle, des petits libraires de bandes dessinées, des libraires jeunesse, c'est-à-dire que c'est un ensemble. Là, c'est très représentatif de l'ensemble de la librairie indépendante, aussi bien au niveau des spécialités qu'au niveau des tailles des librairies, au niveau vraiment de l'économie du livre dans la librairie, mais on a quand même beaucoup de relations humaines.
Jean-Paul. Juste pour rebondir un tout petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, dans l'immédiate après-guerre, quand il y avait une certaine pénurie de papier, André Gide s'est plaint un jour à Gaston Gallimard de la place prépondérante qui était donnée à la série noire, et Gaston Gallimard lui a dit: Monsieur Gide, sans la série noire, je ne vous publie plus. Donc les grands groupes, oui. Mais il y a aussi une réalité, une volonté d'aller chercher des auteurs. On le voit aujourd'hui dans des transferts très juteux, entre guillemets. Je ne crois pas que les grands groupes aient une réelle volonté de voir chuter la librairie. Ce n'est pas ce que je vois, moi, depuis 35 ans. Et les reproches qu'on fait aujourd'hui à Hachette, Paul Rua, qui était le fondateur du syndicat des libraires et qui faisait partie de la continuité, c'est la librairie Tacussel à Marseille, dans un mémoire qui est sorti sur lui, les reproches qu'on faisait à Hachette au siècle précédent étaient strictement les mêmes que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ni Lagardère ni d'autres n'étaient là, donc je crois qu'il faut regarder de manière un peu plus sereine le marché du livre.
Moi, je crois qu'il faut voir, Molly, il y a une génération qui va partir à la retraite, qui est notre génération, et la génération qui a peut-être 5 à 10 ans de moins que nous. Et quand ces gens-là, qui sont directeurs de collection, ce que Schifrin appelle éditeur, dans l'édition sans éditeur, ce que Schifrin appelle éditeur, c'est-à-dire responsable des livres qui se publient, il va falloir voir comment l'évolution va se faire dans les 5-10 années à venir, quand tous ces gens-là partiront à la retraite. Moi, je ne suis pas si sûre que ce soit si... enchanteur que ça, je dirais. Parce qu'il suffit quand même de lire Schifrin et de lire l'édition sans éditeur, plus peut-être que le contrôle de la parole, l'édition sans éditeur, pour s'apercevoir que l'évolution aux États-Unis a suivi à peu près les mêmes lignes que ce que subit l'édition française en ce moment. C'est-à-dire que les groupes, les éditeurs ont été rachetés par des groupes qui faisaient du multimédia, de l'armement, de l'eau, exactement ce qui se passe. Et que à ce moment-là, pendant un certain moment, ça a fonctionné. Il faut voir quand Hachette a racheté Azan, par exemple. Éric Azan était resté directeur de collection. Et puis, petit à petit, ça a viré. Éric Azan, qui avait vendu son nom à Hachette, en même temps que sa maison, a laissé le nom de Azan à Hachette. Mais on ne publie plus maintenant chez Azan ce qui se publiait il y a 15 ans ou
alors,
il y a 20 ans.
Est-ce que justement la concentration comme ça de groupes avec des noms derrière, est-ce que ça favorise pas finalement une édition alternative ou un contre-courant ou un mouvement justement qui peut créer aussi une dynamique en marge et qui prend peut-être de plus en plus, enfin, avec beaucoup d'optimisme, de la place et du poids sur ces gros groupes qui proposent des titres qui vont dans un sens d'uniformisation et de consommation, quoi. Donc est-ce que ça favorise pas aussi je sais pas.
Moi, je voudrais juste...
Nadia, histoire de l'œil.
Par rapport à, juste peut-être pour éclaircir un peu la lanterne des auditeurs qui ne savent pas forcément comment fonctionne la librairie. Alors en effet, il y a ces gros groupes, ces grands groupes qui distribuent qui diffusent les éditeurs qu'on peut, qu'on connaît, plus ou moins. En tout cas, un certain nombre d'éditeurs se retrouvent distribués par un gros distributeur qui peut être Hachette, qui peut être tous ceux qu'on a pu citer. Il y a aussi des petits éditeurs qui sont distribués par ces grosses maisons et qui souvent se plaignent, enfin qui sont un petit peu obligés de passer par là et qui en même temps se plaignent de ne pas être assez visibles forcément quand il y a un éditeur absolument énorme et reconnu.
C'est pas eux qu'on va mettre en tête de gondole.
Exactement, c'est pas eux qu'on met en avant. Ce qui veut dire aussi qu'il y a, je rebondis là-dessus, qu'il y a aussi des éditeurs qui font le choix de ne pas être distribués par les grands groupes. Donc, et je pense que c'est... Là, je rends la parole à Laurent par rapport à justement à ce que tu disais sur ton stock, sur ton fonds, qui était composé qu'à 50% par les grands distributeurs.
C'est évident, et Schifrin en parlait dans l'édition sans éditeur. C'est évident qu'aujourd'hui, il y a des espaces nouveaux qui se libèrent et que tout de suite s'engouffrent là-dedans et des éditeurs qui se regroupent. 3, 4, 5, 6, et qui essayent de proposer leur propre distribution. Le problème, c'est que c'est pas du tout évident. Hein. L'édition foisonne, le nombre d'éditeurs est impressionnant. J'espère que tout à l'heure, je voudrais parler de nouveaux éditeurs à Marseille.
Oui, bien sûr.
L'édition foisonne, mais le problème, c'est pas de faire des livres qui posent un problème aujourd'hui. C'est de les distribuer et qu'ils soient en contact avec un public.
Imaginons que donc des éditeurs ne s'affilient pas à des grands groupes, donc restent vraiment indépendants et vont directement à la rencontre de libraires ou de points de vente, et que les libraires eux disent bon maintenant je peux pas prendre le risque de te prendre ces livres parce que je ne les connais pas et puis ma clientèle ça va pas correspondre donc c'est possible qu'un livre ne soit finalement jamais nulle part.
Oui, mais c'est souvent... D'abord, c'est le boulot du libraire hein, de savoir le livre qu'on lui propose et puis de demander au diffuseur, au distributeur ou à l'éditeur d'avoir connaissance de ses livres. Donc ça, c'est encore notre travail, hein, s'il nous en reste. Au niveau du choix.
De choix,
s'il nous
de
en
sélection.
Reste. Et c'est vrai qu'avec les petits éditeurs, on choisit vraiment les livres qu'on veut avoir. Avec les grands groupes, on les choisit de moins en moins. Moi, ce que je pense aujourd'hui, j'incrimine pas les grands groupes comme ça, parce que moi, je pense qu'il y a une logique différente avec l'après-guerre. Hein. On est dans un autre capitalisme, on est dans un autre... Mais aujourd'hui, ce qui nous manque beaucoup, c'est les politiques culturelles. Parce que bon, on voit les dégâts qu'ont fait ce gouvernement depuis 5 ans sur la question sociale, sur la question économique, sur les libertés et tout, etc. Mais aussi sur la politique culturelle. Il y a une nouvelle loi qui est passée il y a 2 ans sur la question des remises aux collectivités. Soi-disant, j'ai lu les textes affligeants, d'ailleurs de l'ancienne ministre, de l'ancien du gouvernement d'avant, sous Jospin, qui faisait cette loi pour défendre la petite librairie. Or, aujourd'hui, c'est une loi qui nous est largement défavorable. Pourquoi ? Parce que les petits libraires faisaient très peu de remises aux collectivités. Par contre, les grosses librairies en faisaient d'énormes remises aux collectivités. Aujourd'hui, la remise est plafonnée à 9%, mais on doit payer une taxe de 6%. Donc, ça veut dire qu'on perd 5 points de marge par rapport à ce qu'on faisait avant. Et là, de plus, c'est un coup dur. Moi, par exemple, j'ai fait le choix à ce moment-là d'arrêter quasiment complètement toute vente aux collectivités. Le peu que j'en avais, j'ai arrêté. J'ai aucune raison que je continue à perdre la marge, alors que la marge que j'ai aujourd'hui suffit à peine pour vivre.
Ouais, donc, est-ce qu'on arrive, quand on a un fonds spécialisé, quand on travaille avec les grands groupes, Lagardère et compagnie, parce qu'on est bien obligé, et puis bon, ça peut répondre aussi à une certaine demande, bon, pourquoi pas, mais bon, quand on ne travaille pas que avec ces personnes-là, est-ce qu'on arrive à vivre de la vente du livre ? Est-ce qu'un libraire peut, juste par la vente du livre, arriver à payer des salaires, à louer son local, tout ça ?
Il faut mettre, si tu parles de l'économie du livre, il faut mettre en avant un problème qui est quand même un problème très très grave sur l'ensemble des centres-villes, c'est le problème des loyers. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les loyers étaient à peu près corrects, je dirais, et maintenant, ils s'envolent, pour ne pas dire davantage, dans les centres-villes.
Et vous n'avez pas des bails spécifiques ?
Oui, mais par exemple, le problème, c'est pas un problème de rester dans l'espace. Si tu es dans une perspective d'évolution, puisque c'est ça aussi. À un moment donné, il faut, si tu situes une librairie sur une durée de vie de 30, 40 ans, c'est-à-dire pas uniquement ta vie à toi professionnelle, mais l'évolution de la librairie, comment tu peux envisager à un moment donné, quand tu as exploré une certaine qualité de fond, de te développer parce que tu te dis que dans ta ville, il manque tel truc, il y a certains autres aspects qui ne sont pas proposés. Comment tu peux te développer ? Le seul développement, c'est de déménager dans un espace plus grand. Et sur la bonne ville de Marseille, je défie qui que ce soit dans le monde de la librairie, vu les marges que nous avons, de trouver l'argent pour payer les loyers qui sont demandés en ce moment. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est le problème du personnel. Si on considère que la qualité, la spécificité de la librairie indépendante, c'est la qualité du service, ça veut dire que le personnel que nous employons est un personnel qui ne doit pas être rétribué au SMIC.
Oui, parce que c'est parce qu'on
ne peut pas, les sacrifices que nous consentons, nous, en tant que patrons de librairie, parce que nous aimons notre métier, on ne peut pas forcément les demander à des employés. Et ensuite, le truc, c'est de garder ces employés. Une fois qu'on les a formés, qu'ils sont compétents, comment les garder ? Et pour moi, la seule façon qu'un patron a de reconnaître la valeur de quelqu'un qui travaille chez lui, c'est les qualités de travail et le salaire. Si on ne peut pas payer des salaires corrects aux gens qui travaillent chez nous, c'est un handicap extrêmement important. Donc après, il y a tout le reste. Voilà.
Nadia, Laurent.
Mais donc c'est bien derrière ce que vient de dire Molly, la question de la marge, qui est la question fondamentale dans la librairie. Aujourd'hui, la loi Langue a permis qu'il y ait un prix unique du livre. Alors cette loi Langue, elle est sacro-sainte chez les libraires, on n'a pas le droit d'y toucher et tout. Moi, je me permets quand même d'y toucher, parce que si j'y suis d'accord sur l'article 1, alinéa 1, je ne suis pas d'accord sur le reste. Absolument pas d'accord sur tous les autres termes de la loi Langue. Elle donne tous les pouvoirs à l'éditeur, et quand l'éditeur devient fort et puissant, au groupe qu'il représente. C'est-à-dire il fixe librement le droit de l'auteur.
Aujourd'hui, c'est un prix fixe et donc une marge quasiment fixe.
Alors, c'est un prix fixe qui est introduit tout de suite. En plus, il y a des négociations de ce prix, c'est-à-dire des 5%, ce que je trouve complètement ridicule. Quand on a un prix fixe, on a un prix fixe. On prend un menu dans un restaurant, on ne va pas négocier le prix, alors on peut le faire. Là, on est le seul produit en France, entre guillemets, produit commercial, où il y a un acte de commerce dessus, entre guillemets, qui a un prix imposé. Mais on introduit tout de suite l'idée de la négociation. Moi, j'ai des clients tous les jours qui viennent me dire « Je ne peux pas avoir 5% », et moi, je ne fais pas 5%.
Du coup, ils vont dans les autres
centres. Non, parce que pour 5%, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Ils vont. Non. Et puis, moi, je leur explique. Je leur dis pas, je vous fais pas 5%. J'explique ce que c'est que la loi Lang. On en parle ensemble et tout. Mais la loi Lang, elle dit aussi autre chose. Elle dit que l'éditeur fixe librement le prix du livre. Or, moi, je pense que ça, c'est une question qui est à discuter. Il n'y a pas comme unique solution la fixation par l'éditeur le prix du livre. On peut, même s'il y a de la complexité derrière, on peut gérer ces complexités. Aujourd'hui, on sait gérer des complexités. Donc, il pourrait y avoir d'autres approches que la fixation unilatérale par l'éditeur du prix du livre. Et puis, je pense que la fixation unilatérale aussi par l'éditeur de la remise et donc de la marge du libraire est quelque chose qui le met dans la toute puissance. Et nous, dans la vassalisation, comme le disait un rapport il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, dans notre rapport avec notre, entre guillemets, fournisseur. Et ça, c'est des problèmes que, bon, on voit peu discuter aujourd'hui. Enfin, bon, moi, je ne suis pas du tout dans les associations ni dans les syndicats et tout. Peut-être que ça se discute dans ces structures. Mais je sais que, aujourd'hui, toucher à la loi Lang, là, il y a une levée de bouclier avec l'argument suivant, qui est de dire que si on touche à la loi Lang, ils vont déréglementer le prix unique du livre. Ben, moi, je pense qu'on doit pouvoir toucher à la loi Lang et remettre en cause et la durée de publication, la durée, le temps de publication des ouvrages en poche, des ouvrages en club et tout, etc. C'est des choses qui me semblent ne pas aller dans ce qui était l'idée fondamentale de la loi Lang, c'est de permettre une édition plurielle d'exister et donc de permettre un accès aux livres le plus démocratique possible, de permettre une production dans un pays démocratique, on doit avoir la production la plus large possible, la plus iconoclaste possible si elle doit être iconoclaste, etc. etc. Or, aujourd'hui, c'est ça qui est remis en cause, je pense.
Jean-Paul, à Cultura, vous n'avez pas ces mêmes types de problèmes ou vous
êtes Alors, nous avons exactement les mêmes pour les 5%. Il ne faut pas croire que ce soit des problèmes réservés à la librairie indépendante. Nous, on nous demande effectivement tous les jours ces 5%. Dans les négociations avec les éditeurs, il est évident que notre poids n'est pas forcément le même. Mais si on prend l'exemple de Paidos, je suis certain que les remises chez un éditeur de sciences humaines sont supérieures chez Paidos que chez Cultura. Mais tout à fait. Et c'est complètement normal. Ce que je veux dire par là, c'est que donc il y a quand même une ouverture à la négociation vis-à-vis des éditeurs par rapport au marché existant. Après, le débat s'agrandit jusqu'au fait d'accepter ou non le capitalisme, je veux dire. Mais on en est là-dessus.
On est d'accord.
Bien sûr. Enfin, je crois, pour revenir à la situation éditoriale aux États-Unis, on va parler juste de littérature deux minutes, parce qu'au fond, on parle beaucoup de chiffres. Moi, j'estime aujourd'hui que la littérature américaine, avec Roth, avec Koster, avec Easton Ellis, etc., n'a jamais été aussi exceptionnelle depuis la période Hemingway, Scott Fitzgerald. Et pourtant, je suis entièrement d'accord. Mais ça veut dire aussi que le commerce n'empêche pas la qualité et la situation de l'édition américaine ou la situation de l'édition française n'empêche pas la qualité des ouvrages qui paraissent aujourd'hui.
Non, c'est pas ça que j'ai dit.
C'était un ajout.
Ça, d'une part, ce qui est connu d'une littérature par la traduction n'est pas forcément représentatif de ce qui est la littérature du pays. Moi, les États-Unis, je connais pas, mais je connais bien l'Espagne parce que je lis l'espagnol. Je lis des bouquins en espagnol que je trouve parfaitement intéressants et qui ne sont jamais, jamais traduits en français. Et moi, j'en ai proposé certains livres à des traducteurs. Et en fait, ça ne correspond pas à ce qui est pour eux, pas pour les traducteurs, mais pour les éditeurs, attendu par les éditeurs français, par le public français. Donc ça, c'est deux choses différentes. C'est pas sûr que Paul Auster soit plus connu aux États-Unis qu'en France. Peut-être Roth, oui. Mais Paul Auster, c'est pas sûr du tout.
Roth, sans doute. Auster, effectivement, vous avez raison. Hein? C'est le cas de Woody Allen dans le cinéma aussi. Mais je veux dire par là que la concentration éditoriale, l'arrivée du capitalisme massif dans l'édition n'empêchera jamais, et on en est tous ravis, une création très forte.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
C'était un ajout à ce que vous disiez, mais c'est pas une critique.
Peut-être pour revenir justement sur le fait que le libraire aussi accompagne le lecteur dans ses choix de littérature. Vous êtes confronté évidemment aux milliers ou centaines de nouveautés qui vous arrivent donc maintenant deux fois par an. Comment gérer cet équilibre entre donc les nouveautés qui arrivent et que les lecteurs recherchent aussi, mais un fond existant de qualité que vous avez envie de défendre et que vous avez envie de continuer à vendre, même si les livres ne sont pas forcément forcément récent, quoi. Donc, comment vous arrivez à jouer cet équilibre-là entre orienter vers des nouveaux, accepter les nouveautés, en même temps gérer un fonds qui est existant. Enfin, comment se passe le flux et le renouvellement du stock dans une librairie? Est-ce que c'est important?
Moi, j'ai pas de littérature, donc je ne suis pas soumise à la pression des deux.
À Librairie du Regard, c'est vrai qu'on trouve des publications, des ouvrages qui peuvent dater de 97, 98.
Oui, je ne suis pas soumise à la pression de la rentrée littéraire. Donc
vous n'avez pas du tout à la Librairie Regard d'arrivage.
On a de la littérature du bassin méditerranéen. C'est-à-dire des littératures que je connais personnellement, parce que je connais même des auteurs et tout, et que je peux défendre, et puis qui est en relation avec l'ensemble du rayon méditerranéen, qui est un très gros rayon pour nous. Hein. Mmh. Mais sinon, on n'a pas de littérature. Donc,
Et donc là, par rapport à cette littérature méditerranéenne...
Je choisis.
Ouais, d'accord.
Je sélectionne. Je sélectionne ça, de toute façon...
Nadia, Histoire de l'œil.
Oui.
Vous choisissez aussi.
On choisit, oui. On choisit aussi parce qu'on a justement on a essayé de détourner un petit peu les offices et le système, enfin le fonctionnement des grands groupes de distribution.
Alors les offices, c'est ce qu'on.
C'est les nouveautés qu'on nous envoie d'office quand elles sortent. Donc les grands groupes se débrouillent pour que. Leur parution, qu'ils essayent de défendre au maximum et de vendre le plus possible, nous arrive, quoi qu'il arrive. Nous, on peut choisir, on s'est brouillé pour pouvoir choisir ce qu'on voulait recevoir. Il y a vraiment quelque chose, je pense, dont il faut être conscient, c'est que, en tout cas en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas, juste, pas forcément avec Cultura, mais avec mes confrères de Regard ou de Païdos, c'est qu'on est aussi des librairies de quartier. C'est-à-dire qu'on est les gens qui viennent chez moi, acheter un livre, choisir un livre, me demander conseil, ce ne sont pas forcément les mêmes qui vont aller à la FNAC ou chez Cultura. En tout cas, ils ne viennent pas y chercher la même chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir toutes les nouveautés. Si les clients, les lecteurs cherchent quelque chose qui vient de sortir, dont ils ont entendu parler à la télévision ou autre chose, et qu'on ne l'a pas, généralement, ils acceptent d'attendre une semaine et de faire une commande. Sinon, ils prennent autre chose. Ou, c'est très rare que quelqu'un rentre en me disant... ça arrive, est-ce que vous avez le Da Vinci Code? Non, j'ai pas le Da Vinci Code. Merci, c'est pas grave, je vais aller à la FNAC. Ou je peux vous le commander, oui, merci.
Alors que Cultura vit pratiquement qu'avec les nouveautés. Quoi, et c'est vraiment...
Il y a quand même 50 000 références différentes dans le magasin, ce qui fait beaucoup. Il est évident, oui, tout à fait, que nous vivons avec les nouveautés. Donc vous avez parlé de deux rentrées littéraires en septembre et en janvier, mais on reçoit des offices, des nouveautés, en gros 11 mois par an. Et là, on est tous à la même enseigne. Ouais. Gros diffuseurs, petits éditeurs, tout le monde est dans le même panier. Et l'inflation de parution nous préoccupe tous au niveau de la gestion. Chacun a des degrés différents, mais on est tous gênés. Et c'est vrai que le choix des titres est important et on est obligé aussi de le faire au niveau gestion. Aujourd'hui, je ne crois plus qu'il y ait beaucoup de librairies à prendre la totalité de l'offre du livre. Donc oui, il y a un choix.
Il y a un problème de place.
Il y a un problème de place, il y a un problème d'exposition, il y a un problème d'argent parce que le livre reste, entre guillemets, un loisir égoïste. On lit un livre seul, on va au cinéma, on écoute des disques avec des amis, donc le livre reste un loisir relativement onéreux. C'est vrai que même si le livre de poche a beaucoup démocratisé la lecture, nous on est aussi quand même une librairie de proximité pour la Valentine jusqu'à Aubagne. On a des clients qui reviennent de manière très régulière, moins sans aucun doute que chez vous au niveau de la fidélisation de la clientèle. Et puis on a tous le même problème, c'est que les plus gros lecteurs aujourd'hui sont les plus infidèles à leur librairie. Parce que le lecteur qui veut le dernier Philip Roth va le prendre au premier endroit où il va le trouver. Et c'est donc difficile de pérenniser une certaine offre.
Par rapport à l'histoire de la gestion, peut-être juste préciser que même quand on nous envoie d'office, on paye les livres. Bon, on les paye avec un délai de paiement, bien sûr.
Un petit délai de paiement.
Avec un petit délai de paiement, mais on les paye. Et juste par rapport aux offices, pour raconter un peu, à partir du moment où on reçoit les nouveautés, il faut qu'on les paye sous 60 jours. Et on ne peut pas les retourner avant 3 mois, avant 90 jours.
Oui, donc c'est une obligation de payer
Bah pour nous c'est ça. On peut les retourner à partir de 3 mois jusqu'à 1 an.
De toute façon, quelle
de règle générale.
Quelle que soit l'évolution, c'est vrai que la Sodis a un petit peu changé.
Voilà, la Sodis, oui. Gallimard, donc
pour l'esprit du public, Gallimard. On est toujours, enfin, notre fournisseur est toujours créditeur envers nous, à partir du moment où on fait des retours. Donc nous sommes les banquiers de ces grandes maisons. Nous sommes globalement sur les nouveautés, les banquiers, les financeurs de M. Lagardère et de M. Cellier.
C'est-à-dire qu'on vous envoie d'office des livres que vous n'avez pas choisis, que vous devez payer.
Qu'on doit payer sous 60 jours et pendant 30 jours au niveau de la trésorerie.
Et le renvoi est à vos
frais.
Ces derniers temps où on estime qu'il y a une crise du livre, depuis un an. Enfin, moi j'estime que depuis un an, il y a une crise profonde et grave du livre. Que ce soit à Marseille pour des raisons particulières, on en parlera peut-être tout à l'heure, du centre-ville.
Mais, parlons-en maintenant, parce que.
Voilà.
On n'a pas 3 heures, donc.
Voilà.
Enfin, voilà.
Je m'en rends pas compte du temps qui passe. Mais, enfin, globalement, au-delà de cette crise du livre, je ne sais plus ce que je voulais dire.
Qu'à Marseille, justement, il y avait particulièrement une crise de livres. Alors, je ne sais pas si c'était dû aux travaux, enfin, si vous voulez.
Bien sûr, c'est dû aux travaux. On a un des maires, il faut le dire franchement, hein, on a un des maires les plus cons de France, quand même. Ouais. Parce qu'un mec qui commence des travaux partout en même temps dans ville, qui met des horodateurs, c'est-à-dire qui fait fuir, et qui le fait volontairement, parce qu'il le fait dire par ses adjoints. Il veut que, d'une part, la population qui habite le centre-ville dégage, parce qu'elle est trop pauvre pour lui, elle ne paye pas assez d'impôts, et d'autre part, que les gens des autres arrondissements de Marseille ne viennent plus dans le centre-ville. Donc, on a une désertification. Alors, je crois qu'il y a des indemnisations, mais qui ont l'air complètement ridicules et pas attribuées aux libraires qui sont directement touchés par les travaux du tramway. Or, moi, depuis qu'il y a les travaux du tramway, mon chiffre d'affaires a chuté globalement de 30%. Donc, M. Gaudin, lui, ça me fiche de ça. Il continue sa politique de casse de la ville de Marseille. Et on en est victime comme d'autres, hein, comme beaucoup d'autres. Il n'y a pas que les libraires à Marseille. Mais on en est victime, là, directement.
Moi, je pense que tout le centre-ville souffre profondément des travaux. Nous, la rue de la République, on commence la 4e année de travaux. On a commencé au mois de mars, la 4e année de travaux. Donc, nous avons une chute aussi colossale du chiffre d'affaires. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les procédures d'indemnisation sont des procédures qui ne concernent que les librairies qui sont sur le chemin du tramway. Toi, tu ne peux pas en profiter, moi non plus, parce qu'on est au-delà de la limite géographique de la zone indemnisée et que même pour les libraires qui seront indemnisés, elles sont ridicules.
Et pourtant, c'est une clientèle à la librairie Païdos qui est fidèle, qui est régulière, qui est un peu spécialisée, donc qui a priori...
Moi, ils m'appellent au téléphone et ils me disent, vous avez je ne viens que si vous avez les 2-3 livres que je veux avoir. Ou vous me les commandez, mais je ne viendrai qu'à ce moment-là. C'est-à-dire, ils fondent sur le centre-ville à un moment où
il y a moins de visites par hasard.
Et donc, il y a moins de visites, ça, c'est clair. C'est très clair. On perd toute une partie de notre clientèle parce que bon, on est une librairie quartier aussi, mais on est par nos spécialités une librairie régionale. Donc les gens de Toulon, ils viennent plus. Hein. Moi, les gens d'Avignon, j'en ai plus. Hein. J'avais 10-20% de gens qui venaient d'une zone beaucoup plus large que Marseille.
Et alors, en même temps, Histoire de l'œil se construit en plein travaux, en pleine période, en plein centre-ville et en pleine période de travaux. Donc, on se dit, bon, soit c'est du masochisme, je sais pas.
C'est différent avec la littérature, je crois. C'est-à-dire que nous, on a ouvert au moment où la librairie qui s'appelait Mille et une pages sur le cours Julien a fermé. Ce qui fait que sur le quartier de la Plaine, il n'y avait plus du tout de propositions en littérature. En art non plus, il fallait aller à la Vieille Charité. Donc on s'est vraiment inscrit dans un créneau de spécialité. Voilà, je crois qu'on a pris une place qu'il y avait à prendre à ce moment-là. Maintenant, ce que je disais à Laurent tout à l'heure, on a des objectifs qui sont ceux d'une librairie qui ouvre aujourd'hui, qui ne sont évidemment pas ceux d'une librairie qui aurait ouvert il y a 10 ans. Donc on a des objectifs qui sont bien, bien inférieurs et on se contente de moins, j'ai envie de dire.
Alors j'ai un peu envie de vous demander, parce qu'on on s'imagine, enfin en tout cas moi je m'imagine que le libraire lit énormément, évidemment puisqu'il est passionné par les livres, donc il lit, en même temps il y a toutes les nouveautés qui lui arrivent, et puis peut-être qu'il y a une overdose des fois de lecture, hein, je sais pas. Donc est-ce que vous lisez, est-ce que vous avez le temps de lire, et si c'est le cas, j'ai un peu envie de vous demander, voilà, votre coup de cœur, ce que vous avez lu dernièrement, ce qui... ce dont vous avez envie de défendre, Jean-Paul Lati,
alors,
à Cultura, enfin, l'endroit.
La lecture, oui, c'est cette passion qui nous a tous amenés dans une librairie. Moi, j'ai la chance d'être insomniaque, donc la nuit, je lis énormément. Le dernier livre qui m'a beaucoup marqué est un livre d'un petit éditeur, c'est Eliana Lévy, c'est un livre d'Alessandro Piperno qui s'appelle « Avec les pires intentions », qui est un ouvrage d'un jeune professeur de littérature française italien et qui va devenir, je pense, un grand, grand nom de la littérature italienne. Voilà, donc ça, c'est mon dernier coup de cœur.
Et alors, du coup, à Cultura, ce petit livre, vous allez pouvoir le mettre
ce
en tête de gondole ?
Ce livre est en tête de gondole avec un coup de cœur signé Jean-Paul Lavalentine. Après, l'influence est limitée, peut-être, encore qu'on a de beaux résultats sur ce titre en particulier, mais chacun met ses coups de cœur, et ce sont les coups de cœur des libraires du magasin. C'est le livre qui a plu et... Personne, à quelque niveau que ce soit de Cultura, non seulement ne remet en cause ses coups de cœur, mais on a une opération été, nous, sur l'ensemble de la chaîne, où chaque librairie Cultura a choisi 3 coups de cœur, et ces coups de cœur seront défendus tout l'été sur les 30 et quelques magasins de la chaîne, sans regard d'éditeur ou de rentabilité possible.
Nadia, est-ce que tu lis ?
Je lis, pas assez à mon goût, mais...
En diagonale ?
Parfois, ce qui est généralement pas très bon signe. Mon dernier gros coup de cœur, alors ça m'embête un peu parce que c'est pas du tout une petite maison d'édition indépendante ou quoi que ce soit. Mon dernier grand coup de cœur, c'est le dernier Quignard, Fila Amalia, chez Gallimard. Voilà, c'est un roman qui m'a énormément touchée. En même temps, il y en a d'autres qui m'ont moins emballée, mais parce que celui-là a été particulièrement coup de cœur. Mais enfin voilà, je pourrais en citer évidemment beaucoup, et des petites maisons et des grandes maisons, et voilà.
Molly,
moi je lis. Je lis de plusieurs façons. D'abord, pour toute cette littérature méditerranéenne, je la commence en diagonale. Je ne lis après que ce qui me passionne, vraiment. Et puis les sciences humaines, par contre, quand je choisis un livre en sciences humaines, je le lis parce que je ne peux pas faire l'économie.
Est-ce qu'avec la pratique et les années et l'ancienneté, etc., on lit différemment
Pour un vrai acte. Là, par exemple, Alban Bensa, qui est publié par Anna Karsis, qui est un éditeur marseillais, justement, La fin de l'exotisme, est venu à la librairie. Bon, moi, il se trouve que, de par ma formation et de par mon environnement, c'était l'ethnologie, l'anthropologie, c'était vraiment des domaines qui me passionnaient. Donc, pour la venue de Bensa, je ne l'ai pas fini, d'ailleurs. J'ai commencé de façon très sérieuse La fin de l'exotisme, qui, je trouve, en cette période d'ouverture du Quai Branly, de réflexion sur l'esclavage, enfin, de tout un tas et quelque chose de très intéressant. Si on peut dire un peu vulgairement, remet les pendules à l'heure. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et je pense que je n'ai pas eu le temps de le lire parce qu'il arrive à peine. L'Emmanuel Théré aussi, je publiais chez Actes Sud, qui s'appelle, à propos du devoir de mémoire, j'ai plus le titre en tête. Je pense que c'est aussi un livre très intéressant. Mais je suis sur Bensa, j'ai pas encore repris Emmanuel Théré. Mais ça secoue, c'est bien.
Laurent Baudry.
Moi, je lis pas. Non mais on lit les trois quarts des livres en diagonale.
Moi,
c'est impossible. Et puis, ces trois quarts des livres ne représentent pas 10% des livres qui rentrent dans ma librairie. Mais bon, on a des prismes chacun. On connaît les collections, les auteurs, les salles. Donc, c'est impossible. Et puis, voilà. Moi, j'ai pas de littérature dans la librairie. J'ai de la littérature. Donc,
combien de nouveautés, enfin, combien de livres rentrent à Païdos? Alors,
moi,
je ne sais pas si ça se compte par mois ou par an.
Je ne sais pas, je suis incapable de le dire comme ça. Mais moi, globalement, très peu, parce que moi, je freine des cas de fer tout ce qui entrait de nouveauté. Donc, je fais tout pour ne pas recevoir. Et malgré tout, je reçois 30% de choses que je n'ai jamais demandées. Donc, sur lesquelles j'enrichis ces pauvres distributeurs. Mais non, en ce moment, nous on fait tout un cycle de débats et de rencontres autour de la guerre d'Espagne.
Oui, pour les 10 ans.
Pour les 10 ans de Païdos. Donc je lis un petit livre qui s'appelle Vacances de Marc Bernard, qui se passe à ce moment-là chez Gallimard aussi, un grand éditeur. des grands groupes, mais j'ai lu hier, il y avait Émile Témine qui était à la librairie, j'ai lu dernièrement Les camps de la plage, qui est un livre magnifique, j'ai lu Jean-François Berdoas sur l'histoire de la guerre d'Espagne, qui est aussi un livre superbe, qui nous montre bien ce qui s'est passé à ce moment-là et le rôle que les Français ont joué dans cette guerre d'Espagne.
C'est étonnant quand même de fêter ces 10 ans en commémorant la guerre d'Espagne et puis cet acte de résistance.
Ben, je trouve que c'est les 70 ans, c'est les 70 ans de la guerre d'Espagne, c'est les 75 ans de la République espagnole. Et puis fêter en faisant en picolant et une bonne bouffe, ça m'emmerde un peu.
Ah, donc, ça peut se faire par ailleurs.
On le fait en même temps, mais je trouvais plus sympa d'offrir à notre public un thème de réflexion et de débat qui sur un événement qui nous marque encore aujourd'hui. Je prends par exemple, j'ai été acteur sur la bataille contre la Constitution européenne et j'ai lu dernièrement la Constitution de la République de 1931. Franchement, on aurait eu celle-là à voter, je la votais des deux mains. Or, c'est pas une constitution gauchiste, hein. C'est une constitution qui était faite par les centristes de gauche de la Deuxième République espagnole et c'est une constitution extrêmement intéressante. Entre autres pour la culture d'ailleurs, hein, mais sur la laïcité, sur la démocratie sociale, etc. etc. Donc voilà, c'est un regard sur l'histoire, mais c'est aussi des armes pour lutter aujourd'hui, pour combattre aujourd'hui. On voit aujourd'hui qu'on a besoin de lutter et de combattre.
Donc à cette occasion, il y a des rencontres aussi qui ont lieu en ce moment à la librairie Païdos avec des auteurs.
Donc la semaine prochaine, on aura aussi une rencontre autour d'un très beau livre qui s'appelle Les Fils de la Nuit, qui est publié chez l'Insomniac, autour d'Antoine Jiménez, qui est un antifasciste italien qui a rejoint les colonnes d'Urruti en Espagne. Et on passera à l'occasion un petit film de la CNT qui a été tourné en 1936. Et puis... ça, ce sera le jeudi. Le vendredi, on a inauguré dans la librairie une salle d'exposition, c'est la semaine dernière. Ah. Et on a une salle d'exposition qui n'est pas dédiée à l'art contemporain, mais qui est dédiée là, à des affiches sur la guerre d'Espagne, à des affiches originales qui sont présentes, du POUM, de la CNT, etc. Il y a des journaux... qui sont des documents qui nous permettent de mieux comprendre ce qui s'est passé.
D'ouvrir la librairie, comme ça, enfin, je pense à Histoire de l'œil. Bon, Molly aussi, vous faites énormément de rencontres. À Cultura aussi, il y a une ouverture. Bon, je ne dis pas forcément sur des expositions, mais en tout cas, il y a des rencontres avec les auteurs. Enfin, d'ouvrir la librairie à du vivant, que ce soit par la rencontre ou par des expositions, etc. Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est un besoin? Ouais.
Oui, Molly, je pense que c'est un besoin. Je pense que le livre, et c'est la défense du livre, c'est-à-dire qu'en même temps, le libraire maintenant est un partenaire culturel. La transmission du savoir, on ne vient pas à une librairie comme dans un temple pour chercher le savoir. Ce savoir-là, vu l'évolution de la société, on doit le diffuser autrement. Et donc, par la venue des auteurs, par la rencontre, par l'exposition, c'est important que le libraire sorte de son comptoir où il pourrait attendre le chaland, un peu comme une araignée au fond d'une toile.
Et Nadia. Le livre, pour moi, le livre est extrêmement vivant. C'est-à-dire qu'on est, bien sûr, on est seul devant sa page quand on la lit, mais pour moi, c'est une chose extrêmement vivant. Et de recevoir des auteurs ou des acteurs qui viennent pour une lecture contribuent à faire de cet objet une chose vivante.
Alors une petite anecdote pour parler effectivement du vivant. Je suis allé avec Philippe Carrez, qui est un auteur de policiers marseillais bien connu, dans un lycée professionnel. Et la surprise a été de voir un auteur de livres vivant devant eux et qui parlait la même langue qu'eux.
Avec un petit accent.
Et du coup, il y avait... un intérêt, le livre n'était plus l'objet que le prof avait donné à lire. Voilà. Et juste pour la lecture dont vous parliez tout à l'heure, vous avez beaucoup parlé de rentrée littéraire. Entre le 15 août et le 15 septembre, uniquement au niveau des romans et des essais, il paraît entre 1000 et 1500 livres cette année en France. Ce qui veut dire que même si vous lisez un livre par jour entre le 15 août et le 15 septembre, vous aurez lu 2% de cette production. Et vous êtes forcément en porte-à-faux vis-à-vis du lecteur. Quelles que soient les critiques que vous avez pu lire par ailleurs, 98 fois sur 100, vous n'avez pas lu le livre dont il vous demande de vous parler.
Merci donc Jean-Paul Latti de Cultura, Nadia Histoire de l'œil, je ne connais pas ton nom de famille, excuse-moi, Molly Fournel, librairie Regard et Laurent Baudry, librairie Païdos. Ouais.
J'ai juste oublié, je voulais présenter juste deux éditeurs à Marseille, une nouvelle maison d'édition qui vient de se créer autour du journal CQFD et qui publie deux textes qui ont été publiés, qui sont sortis hier, un texte sur le chômage heureux et un texte sur l'antimilitarisme. Absolument remarquable. C'est excellent. Et puis, rappeler une maison d'édition qui n'a que deux titres, mais qui vient d'en publier un dernièrement, qui s'appelle Petit Papier, un texte sur Jiménez qui est magnifique avec un CD, un DVD audio, vidéo, et qui est aussi un très très beau texte. Donc, deux maisons d'édition dont on parle très peu, qui sont très peu distribuées. Enfin, CQFD va être distribué par court-circuit.
Déjà distribué par court-circuit. Et donc, c'est aussi donc, évidemment voilà. Le rôle des libraires à Marseille de défendre cette maison
d'édition. On ne vit pas sans les livres et sans les éditeurs. Donc, c'est eux qui nous. En même temps, on se permet de les critiquer quand il faut.
Et nous avons tous les ans une quinzaine de l'édition régionale où on essaie de faire venir tous les acteurs de cette édition.
Merci à tous et puis bonne continuation dans vos travaux divers et variés. Merci.
Merci. Merci. Thank you.